Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Donc l'évangile de Jean au chapitre 4, qui parle, comme vous le savez, et comme ça a été dit d'ailleurs au début de ce culte, qui parle d'une rencontre entre une femme samaritaine et Jésus. Aujourd'hui, je ne vais pas spécialement vous parler de la discussion qu'il y a eu entre cette femme samaritaine et Jésus. J'y reviendrai parfois juste pour citer l'une ou l'autre chose. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus sur ce qui s'est passé pour la samaritaine après la rencontre avec Jésus. Donc on va lire un premier verset, qui est au verset 30. Donc après que la femme ait rencontré Jésus, elle va retourner dans la ville d'où elle vient pour parler avec les gens de la ville, et elle va les encourager à aller voir Jésus. Et il est dit au verset 30, « Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. » Ensuite, on a un petit intermède où Jésus va parler avec ses disciples. Et on va reprendre au verset 39. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il dit tout ce que j'ai fait. » Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles et ils disaient à la femme « Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Voilà les quelques versets sur lesquels nous allons passer un peu plus de temps ce matin. Alors moi je ne suis pas parisien du tout. Je suis venu en région parisienne il y a 3 ans maintenant lorsque j'ai commencé l'Institut biblique à Nogent-sur-Marne. Mais je ne suis pas du tout parisien, je suis alsacien. Et dans l'église que je fréquentais en Alsace avant de venir à Nogent-sur-Marne, on avait en général au début de l'année scolaire un culte de rentrée. Et c'était un culte qui permettait de raconter un peu ce qu'on avait vécu avec le Seigneur pendant l'été, les camps d'évangélisation qu'on avait fait éventuellement. Ça permettait de se retrouver, de se revoir, de s'encourager pour l'année à venir. Et un jour, j'ai une amie à moi qui a donné un témoignage et elle nous a raconté comment est-ce qu'elle s'était convertie, comment est-ce qu'elle était venue à rencontrer personnellement Jésus-Christ. Et elle nous a parlé des personnes qui l'avaient aidée sur ce chemin. Et j'étais assez étonné d'entendre que j'étais une des personnes qui l'avait aidée. J'avais essayé en tout cas de l'aider, j'étais son responsable de groupe de jeunes, j'avais pris du temps avec elle pour discuter de certaines choses, pour prier avec elle. Mais je pensais pas que ce que j'avais fait avait pu l'impacter particulièrement dans sa marche pour rencontrer le Seigneur. Et je crois qu'on ne se rend pas toujours compte de l'importance que notre témoignage peut avoir dans la conversion des personnes. Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête sur ces versets-là parce que je crois qu'ils nous enseignent quelque chose d'important. C'est que le témoignage que l'on peut rendre de Jésus-Christ aux personnes autour de nous peuvent leur permettre de rencontrer à leur tour Jésus-Christ. J'aimerais qu'on réfléchisse à la façon dont Dieu a utilisé cette femme pour amener d'autres personnes de sa ville au Seigneur et au salut. Et j'espère qu'en voyant ce texte ensemble, ça vous encouragera vous aussi à témoigner autour de vous de ce que vous avez vécu avec le Seigneur. Alors la première chose que j'aimerais relever sur cette femme qui est une évangéliste un peu hors norme, on dira, c'est que c'était une personne qui avait une position sociale et religieuse qui était plutôt particulière. Si on lit bien le texte, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui sont quand même assez étranges. Si on connaît un peu la culture de cette époque, on sait que les hommes et les femmes avaient peu de relations entre eux. Les femmes étaient peu considérées, elles n'avaient pas spécialement de place dans la société, elles n'étaient pas vraiment considérées. En général, la place que la femme avait, elle l'avait parce qu'elle était mariée, elle l'avait parce qu'elle était désignée comme étant la fille d'un tel dans la ville ou le village, mais elle n'était pas forcément trop connue pour ce qu'elle était elle-même en tant que telle. Les juifs orthodoxes à l'époque, et certains juifs orthodoxes encore maintenant, faisaient cette prière le matin lorsqu'ils priaient pour la première fois en disant « Éternel, je te remercie de ce que tu ne m'as fait ni esclave, ni animal, ni femme. » Ça montre un peu quand même dans quel contexte la Samaritaine et les femmes de cette époque évoluaient. C'était un contexte dans lequel elles n'étaient pas beaucoup mieux considérées que des animaux ou des esclaves. Et pourtant, Jésus va prendre le temps de s'arrêter pour parler avec elles. Jésus va parler avec elles, il va aller au puits, à l'heure la plus chaude qui soit de la journée. Et si vous êtes déjà allé en Israël ou dans la région, vous savez à quel point il fait chaud à midi. et vous savez que c'est pas à cette heure-là qu'on va sortir. Mais Jésus va aller rencontrer cette femme. Il va aller lui parler. Mais cette femme, elle n'est pas spécialement reconnue dans sa société. Là où elle vit, dans sa communauté religieuse, c'est pas une femme qui bénéficie d'un très bon retour de sa communauté. D'abord, elle n'est pas mariée. C'est ce qu'elle nous dit au verset 17 et 19 quand elle discute avec Jésus. Elle dit, mais Jésus va lui dire, va chercher ton mari. Elle va lui dire, mais moi, je ne suis pas mariée. Et Jésus va lui dire, tu as raison de dire que tu n'es pas mariée parce que c'est vrai, tu as été mariée plusieurs fois et la personne en plus avec qui tu vis maintenant, ça n'est pas ton mari. Donc Jésus va s'arrêter pour parler à cette femme qui n'est pas considérée, celle qui n'a pas de mari, celle qui vit dans un espèce de concubinage un peu particulier, qui est sans doute du coup adultère aussi, ce que la loi de Moïse condamnait. Mais Jésus va s'arrêter, il va parler avec elle. Alors vous allez me dire, elle n'y peut rien, si c'est une femme. Elle n'a pas choisi de naître femme. Et on est d'accord, c'est pas sa faute si c'est une femme et si elle vit dans une époque et une population où la femme n'est pas considérée. Mais en plus de ça, elle est samaritaine. Alors vous allez me dire, elle n'a pas choisi de naître femme, mais en plus elle n'a pas non plus choisi d'être samaritaine. Moi, j'ai pas choisi d'être alsacien. Si j'avais pu choisir, j'aurais été quand même alsacien. Parce que c'est ce que j'aime. Mais à l'époque, si, et je pense que vous le savez d'ailleurs, il y avait peu de relations entre les juifs et les samaritains. Il y avait des différences de croyances sur certains points concernant Dieu, notamment où est-ce qu'il faut l'adorer. La femme va dire, nos sages disent qu'il faut adorer sur le mont Garizim, et vous, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Alors où est-ce qu'on va ? Il y avait des relations qui étaient difficiles aussi parce que à l'époque où les exilés d'Israël sont rentrés d'exil, sous Esdras et Néhémie, ils sont rentrés parce qu'ils voulaient reconstruire le temple, reprendre le culte à l'Éternel, reprendre les sacrifices. Et les Samaritains à cette époque sont venus et ils ont dit, nous on veut vous aider parce qu'on croit dans le même Dieu, donc on veut reconstruire le temple avec vous. Je ne sais pas, si quelqu'un demain vient vous aider et vous dire, nous on veut vous aider pour construire votre église, on va vous apporter de la main d'œuvre, peut-être qu'on va financer une partie des travaux, c'est tentant quand même de dire oui. Mais là les Juifs à l'époque ont dit non, le temple c'est nous qui le reconstruisons. Parce que c'est à nous que ça a été demandé de le faire et c'est pour ça qu'on est rentré d'exil, c'est pour reconstruire le temple. Et on peut voir dans le texte d'Esdras qu'après, les Samaritains ont été extrêmement vexés de ce rejet de la part des Juifs et qu'ils ont envoyé des gens armés contre les Juifs pour les empêcher de reconstruire. Et on voit dans le texte dans certains textes de Néhémie qu'il est dit que les Juifs travaillaient avec dans une main un outil, dans une autre une arme pour se défendre. Donc on voit que le fait que Jésus s'arrête pour parler à une femme samaritaine, lui qui était juif, ça a quand même quelque chose d'étrange. C'est quand même quelque chose de bizarre qu'un homme comme Jésus s'arrête pour parler avec une femme samaritaine, adultère. Ce texte a quelque chose de particulier. Jésus passe par là et il décide en plus de s'arrêter. En général, quand on passe par la Samarie, on passe, mais on ne s'arrête pas. Parce que les Samaritains n'aiment pas les Juifs n'aiment pas les Samaritains, et ça pouvait même être dangereux pour l'un ou pour l'autre. Mais là, Jésus va décider de s'arrêter pour parler avec cette femme, pour la rencontrer. On peut voir que ses disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, et je pense que c'était voulu par Christ, c'était voulu par Jésus d'être seul avec cette femme pour la rencontrer. Sans doute, connaissant les disciples et un certain Pierre, sans doute qu'il aurait dit « Mais faut pas parler avec cette femme, qu'est-ce que tu fais ? C'est une femme, elle est samaritaine, il faut pas s'arrêter ici, les samaritains ils comprennent rien à comment il faut adorer Dieu, en plus elle est adultère, elle est pas mariée, qu'est-ce que tu fais Jésus ?» Mais non, Jésus va y aller, il va y aller seul, il veut cette rencontre, il veut cette discussion avec cette femme, il s'arrête là où aucun autre juif ne vient s'arrêter. L'attitude de Jésus à l'encontre de cette femme est contraire à tout ce que ferait la société à cette époque-là. Il va s'arrêter, il va aller de manière volontaire rencontrer cette femme, s'arrêter au puits, lui parler, lui demander de lui donner quelque chose, de lui servir de l'eau. Il va parler avec elle. Il va aller encore plus loin. Il va pas juste parler avec elle pour se dire « Voilà, j'ai bonne conscience, j'ai fait quelque chose que personne n'a jamais fait avant, et c'est plutôt bien, et c'est comme je suis le Messie, c'est normal que je fasse des choses qui sortent de l'ordinaire. » Jésus ne fait pas ça. Jésus va se révéler clairement à cette femme en disant « Je suis le Messie, moi qui te parle. » C'est au verset 26 que Jésus le dit. Et c'est très rare que Jésus se désigne directement comme étant le Messie. Mais cette femme, rejetée par sa société, adultère, samaritaine, qui sort à l'heure la plus chaude, sans doute parce que aux autres heures les autres femmes ne voulaient pas qu'elle soit avec elle pour puiser de l'eau, eh ben Jésus va se révéler à elle comme étant le Messie. Je suis le Messie, moi, qui te parle. Cette femme, elle est rejetée par sa communauté. Elle est seule. Elle n'est pas entourée comme nous on peut l'être dans notre église quand il y a quelque chose de difficile. Elle n'est sans doute pas visitée par des personnes pour lui dire « Écoute, ta situation devant Dieu, c'est sans doute pas la bonne situation, tu devrais te mettre en règle. » J'imagine plutôt des hommes qui iraient cogner à sa porte pour essayer de la lapider, parce qu'elle est adultère, et c'est pas bien. Il faut pas avoir une vie comme ça. Jésus va s'arrêter, et il va lui dire que « Toi, tu peux me donner de l'eau, mais j'aurai toujours soif, tu peux boire cette eau et tu auras aussi toujours soif. » Mais moi j'ai quelque chose à te donner, j'ai une eau à te donner pour laquelle tu n'auras plus jamais soif. Alors bien sûr la Samaritaine n'a pas tout compris parce qu'elle se disait « Voyons, comment est-ce que tu peux me donner de l'eau? Comment tu peux puiser sans seau? Comment tu peux donner de l'eau qui, une fois pour toutes, ferait que je n'ai plus soif ?» Elle n'a pas tout compris à ce que Jésus lui disait. Mais Jésus était en train de lui montrer qu'il était bien le Messie, lui, celui qui lui parlait. Jésus ne va pas la condamner, mais il va la mettre face à la réalité des choses de sa vie. Elle a été mariée 5 fois, et aujourd'hui elle vit de manière désordonnée, et Jésus le sait, hein. Et pourtant ça n'empêche pas de prendre cette femme en considération. Peut-être nous, si ça arrivait dans notre église, on se dit « Ouais, ben, on va attendre qu'elle se mette en règle, et puis ensuite on acceptera qu'elle vienne à l'église. Une fois qu'elle aura compris son péché, là elle pourra venir. » Alors, j'espère que c'est pas comme ça que vous réagiriez. En tout cas, j'essayerai de ne pas réagir comme ça. Mais c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce que Jésus la condamne. Il aurait le droit parce qu'elle est en faute, cette femme. Mais Jésus ne va pas la condamner. Il va parler avec elle, il va la prendre en considération, il va se révéler comme étant le Messie. Et quand Jésus va parler du fait qu'elle est en faute, quand il va parler de ses maris, elle va dire « Ah oui, oui, c'est vrai, effectivement, je ne suis pas mariée. Mais sinon, pour l'adoration, comment ça se passe ?» Elle va bifurquer un peu plus loin parce que c'est gênant de parler de son péché. C'est gênant de reconnaître devant Jésus que oui, elle a été mariée 5 fois et qu'aujourd'hui elle est adultère. C'est dur, c'est difficile. Elle sait qu'elle est en faute. Alors elle cherche une échappatoire ailleurs. Et Jésus utilise cette fuite pour la recentrer sur le fait qu'il est le Messie, lui qui lui parle. Jésus va lui dire que l'adoration en esprit et en vérité va venir et il va dire qu'elle est même déjà là. Il le dit, l'heure vient, mais elle est déjà là. Jésus utilise le fait de parler des péchés de cette femme pour la conduire vers la repentance, vers le salut. Jésus ne va pas passer outre les péchés de cette femme, il ne va pas faire comme si sa vie était facile, comme si elle vivait normalement, comme s'il n'y avait pas de problème. Il va prendre cette femme là où elle est, avec sa condition, et il va la rencontrer avec cette condition-là, là où elle est, là où elle se trouve, avec ses difficultés, avec ses 5 mariages, avec cet homme avec qui elle vit, avec ce rejet de sa communauté. Parce que Jésus ne sauve pas des gens parfaits. Et il ne prend pas non plus à son service des gens parfaits. S'il prenait des gens parfaits à son service, je ne pourrais pas être devant vous, parce que je ne suis pas parfait. Si mon époux était là, il pourrait vous témoigner encore bien mieux que moi que je ne suis pas un être parfait. Mais si Dieu sauvait seulement des personnes parfaites, sans péché, bien comme il faut, et qu'il les utilisait pour son service, alors je crois qu'il n'y aurait pas d'église. Ou alors il faudrait que Jésus revienne, parce qu'il serait le seul qui serait capable de prêcher, de louer, de faire les offrandes et toutes les autres choses de la vie de l'église. Dieu nous sauve en révélant Jésus par son esprit, et il fait ça pour qu'on soit témoin aux 4 coins de la terre de ce que lui a fait pour nous. Dieu nous sauve pour qu'on soit des disciples qui sommes capables de porter l'évangile de Christ à d'autres. Je dirais, il ne faut pas qu'on soit gêné par nos imperfections, par nos défauts ou peut-être par notre personnalité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur soi-même pour améliorer certaines choses. Moi, je suis quelqu'un de très timide à la base. Et j'ai dû beaucoup travailler sur moi-même pour pouvoir être devant, pour pouvoir prêcher à des personnes. Et aujourd'hui, je dois encore travailler sur moi-même parce que pour moi, c'est difficile de sortir dans la rue pour rencontrer les gens. Je n'ai pas trop de difficultés à partager ma foi en un à un avec quelqu'un, mais c'est plus dur pour moi de sortir dans la rue pour distribuer des tracts ou autre chose. Et j'ai besoin de l'aide du Seigneur pour le faire. Mais si je lui dis, écoute, j'attends de plus être timide pour faire quelque chose, je vais jamais rien faire. Parce que si je m'habitue pas à sortir, je vais pas prendre l'habitude de parler dehors et je resterai timide. Jésus a pas regardé cette femme en se disant, elle est tellement trop pleine de péché que si je la sauve, elle va jamais pouvoir m'être utile, donc je vais la laisser tomber. Jésus a pas fait ça. Jésus a vu toutes les choses qui allaient pas et il a dit, moi je vais t'amener quelque chose qui va faire que tu vas pouvoir laisser toutes ces choses qui vont pas derrière toi et que tu vas pouvoir commencer quelque chose de neuf avec moi et me servir. Dieu veut se glorifier dans des vies qui sont compliquées et dans des vies qui sont meurtries. Quand je me suis converti, j'avais 13 ans, j'avais pas vécu spécialement de choses compliquées ou hors du commun, j'avais pas commis gros péchés, on dira entre guillemets, hein, parce que j'étais de toute façon pécheur, et je faisais des péchés, je commettais des péchés de toute façon. Mais Dieu veut se glorifier dans des vies qui ont été meurtries, des vies qui ont été compliquées, des vies où il y a eu cinq maris et peut-être encore après un sixième homme, dans des vies où peut-être il y a eu des enfants d'un premier, d'un deuxième, d'un troisième, d'un quatrième mariage. Dieu veut se glorifier dans ces vies-là. La gloire de Dieu brille d'une lueur éclatante dans les ténèbres de notre péché. J'ai bien aimé ce moment tout à l'heure où on a dit, voilà, est-ce que Dieu a fait quelque chose pour vous? Alors des fois, on se rend compte quand Dieu fait des choses pour nous. Des fois, c'est par après qu'on se rend compte. Et puis des fois, on se dit, ben Dieu, il a rien fait d'exceptionnel. J'ai pas vu justement une grande lumière briller dans les ténèbres. Dieu, des fois, fait des choses extraordinaires et on voit que la lumière brille dans les ténèbres. Et parfois, on ne se rend pas compte de ce que Dieu fait. Henri Blocher, qui est un théologien français, que vous connaissez peut-être de nom, que vous avez peut-être un jour croisé, c'est un de mes professeurs, il a écrit un jour quelque part dans un article qu'il fallait qu'on apprenne à discerner dans la vie de tous les jours la main de Dieu qui s'exerce. Et c'est vrai, la main de Dieu s'exerce dans nos vies de tous les jours, même quand on ne voit pas la grande lumière dans nos ténèbres. Mais même lorsqu'on est dans les ténèbres, la main de Dieu peut s'exercer et apporter la grande lumière. N'attendons pas d'être parfait pour servir Christ. Et si on n'est pas encore à Christ, si on n'a pas encore rencontré Jésus-Christ comme notre sauveur, eh bien qu'on n'attende pas non plus d'être parfait pour aller vers lui. Moi, quand je vais chez le médecin, j'y vais parce que je suis malade. Déjà, quand je suis malade, j'ai pas très envie d'y aller. Alors, c'est pas quand je suis en bonne santé que je vais avoir envie d'y aller. Et avec Dieu, c'est pareil. Si on attend d'être en bonne santé pour aller vers Dieu, on n'ira jamais vers Dieu. Et surtout, c'est parce que Dieu veut. Si je passe la porte de mon médecin et que je lui dis bonjour, je vais vraiment extrêmement bien, il va me dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Enfin, si vous n'êtes pas malade, rentrez chez vous. Après, c'est bien pour lui, il gagne 23 ou 25 euros, je ne sais plus là. Mais moi, ça n'a aucun intérêt. Et si je me présentais à Dieu en étant parfait, Dieu il me dirait, c'est bien, mais je suis venu sauver des pécheurs. C'est ce que Jésus a dit. Alors n'ayons pas peur de notre vie, de ce qu'elle est aujourd'hui, ni de ce qu'elle a été avant, parce que Christ peut nous changer, nous transformer et nous utiliser avec notre passé, avec toutes les lourdeurs du passé que nous avons. Et vous savez, je me suis converti à 13 ans, j'avais pas fait grand-chose avant mes 13 ans, mais une fois que je suis devenu adolescent, j'en ai fait voir de toutes les couleurs à mes parents, et je peux vous dire que ce que j'avais fait avant, je l'ai fait après. Il y a eu sans doute une crise en moi, quelque chose, quelque part, qui a fait que peut-être j'étais en rébellion contre ce que j'avais moi-même choisi, mais j'ai fait ensuite des bêtises. Ensuite, je me suis repenti. Ensuite, j'ai commencé à retourner à l'église de manière régulière, au groupe de jeunes, après, à lire ma Bible. Ensuite, j'ai projeté les chants. Ensuite, on m'a proposé, si je voulais, d'être responsable du groupe de jeunes. Ensuite, on m'a proposé de faire une étude biblique, d'animer une réunion de prière. Ensuite, on m'a proposé de faire une présidence du culte. Ensuite, on m'a proposé de prêcher. Ensuite, on m'a dit, tu prêches bien, mais il faut que tu ailles plus loin. Et je suis allé à l'institut biblique, et aujourd'hui je suis ici devant vous. Et pourtant, ma vie n'était pas une vie parfaite avant. Dieu veut nous utiliser avec des vies imparfaites avant, des vies imparfaites au moment où on sert, mais des vies qui va continuer de transformer pour qu'on soit toujours plus semblable à l'image de Jésus. L'évangile, c'est pas juste pour les gens qui sont pauvres, qui sont malheureux, qui vont pas bien. C'est vrai que c'est pour eux, et Jésus le dit, l'évangile, c'est pour ceux qui se savent pauvres en esprit. C'est ce qu'il dit dans Matthieu, dans son sermon sur la montagne. Mais c'est aussi pour des gens qui vont bien. C'est aussi pour des gens qui sont riches, qui ont un bon travail, qui ont une belle voiture, qui ont des enfants qui marchent bien, qui sont pas des délinquants, qui font des bonnes études. L'évangile, c'est pour les deux. C'est pour ceux qui vont bien humainement et pour ceux qui vont pas bien. Et la Samaritaine, c'est une femme qui va pas bien. Il va la sauver en révélant que il est le Messie. Et ensuite, il va l'utiliser. Il l'a pas juste sauvée pour que ça soit bien, pour que Dieu soit glorifié ou autre, mais il l'a sauvée parce qu'il voulait l'utiliser. Il veut faire quelque chose avec elle. Et il veut faire quelque chose avec moi et avec vous aussi. C'est une personne qui a un témoignage simple, mais qui a un témoignage authentique. Elle va rencontrer Jésus, il va lui dire « Je suis le Messie, moi qui te parle. » Et elle va courir pour aller voir sa communauté, pour aller voir les gens là-bas à qui elle vit, dans son village, dans sa ville. Et elle va leur dire d'aller voir Jésus de leurs propres yeux. Mais vous pensez que c'était évident ? Vous vous rappelez ce qu'on a dit sur cette femme ? Qu'elle avait eu 5 maris, qu'elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari, qu'elle sortait seule à l'heure la plus chaude de la journée pour faire une activité qui demande quand même un peu d'exercice, prendre de l'eau, puis... Vous pensez que ça a été simple pour elle de retourner, courir dans sa communauté pour dire « J'ai rencontré le Messie ». Moi, je pense que ça a été dur. Elle était rejetée socialement, et par les chefs religieux aussi, sans doute. Elle avait une situation sociale compliquée, elle devait pas être bien vue. Mais le verset 29 nous dit que quand elle est retournée dans sa ville, elle a dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Et si c'était le Christ ? Si c'était le Sauveur ? Parfois, je crois qu'on hésite à témoigner. Moi, j'ai du mal à témoigner. Parce que des fois, je me dis, mais qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi ? Qu'est-ce que les gens vont croire de moi ? Comment les gens vont me percevoir après s'ils se moquent de moi ? Et s'ils me rejettent ? Le père de mon épouse est juif. Il vit en Israël. Et mon épouse a rencontré le Seigneur alors que son père était parti depuis qu'elle avait 2 ans. Elle a rencontré le Seigneur quand elle avait à peu près la majorité. Et une des grandes difficultés, c'est qu'un jour, son père a découvert qu'elle était chrétienne. Alors, pour un père juif, pas spécialement pratiquant non plus, mais pour un homme juif, un père juif, voir sa fille se convertir au judaïsme, c'est une trahison. Au christianisme, pardon, c'est une trahison. C'est une faute. C'est un reniement de ce qu'on est, de l'héritage qu'on a. Et un jour, il lui a dit, tu choisis. C'est moi ou c'est Dieu. Mon épouse, au début, et quand elle témoigne, elle le dit toujours, aujourd'hui, elle n'est pas fière de le dire, mais au départ, elle a dit, ben écoute, ok, j'arrête d'aller à l'église et tout ça. Et en fait, comme elle habitait en Suisse et que lui habitait en Israël, elle pouvait faire ce qu'elle voulait, et il ne s'en rendait pas compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle dit qu'elle n'est pas fière d'avoir menti. Mais un jour, il a découvert qu'elle s'était faite baptiser, et là, mon épouse lui a écrit une lettre, elle lui a dit, écoute, ce que j'ai vécu avec Dieu, c'est plus important que le fait que tu sois mon père. Moi, je choisis de suivre Christ, et si tu veux me renier, si tu veux me rejeter, vas-y. Moi, je t'aime, mais j'aime le Seigneur plus que je ne t'aime. Elle aurait pu être rejetée, et elle a été rejetée d'une certaine manière, et même aujourd'hui, les relations ne sont pas très faciles. C'est difficile, en ayant un père ou un beau-père juif, de parler de ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Parce que moi, je fais un staff pastoral, elle est missionnaire dans le peuple juif. Du coup, c'est dur parfois de parler, de discuter, parce qu'on ne peut pas raconter ce qu'on fait de nos journées, parce que c'est des choses qui vont lui hérisser les poils, et il ne va pas vouloir nous écouter. On lui a envoyé un Nouveau Testament en hébreu, il nous a envoyé une note audio sur WhatsApp, il nous a dit « Moi, je veux rien avoir à faire avec ça. » Il a dit à ma femme « Tu te trompes et c'est ton problème. » Mais tu ne viens pas me voir avec ça parce que moi, je ne veux pas de ça. Témoigner de sa foi en Jésus-Christ, ça peut amener le rejet même jusque dans sa famille. On a une bonne relation avec mon beau-père tant qu'on parle pas trop de la Bible. Et je comprends, je respecte ça. Je dis pas si un jour un de mes enfants devenait musulman, par exemple, je crois que ça m'arracherait le cœur autant que lui a eu le cœur arraché quand il a su que sa fille se convertissait au christianisme. Mais parfois, oui, on hésite à témoigner parce qu'on se dit « Mais si on me rejette, qu'est-ce que je fais ?» Si on me demande de faire un choix entre Dieu et d'autres choses, qu'est-ce que je fais ? Un des problèmes, quand on fait de l'évangélisation avec les Juifs, notamment auprès des Juifs orthodoxes, donc les plus religieux, c'est de se dire « Si un Juif orthodoxe se convertit, il peut être rejeté. » Alors si c'est une femme, elle peut être rejetée par son mari, mise dehors, elle n'aura pas la garde de ses enfants, elle perdra son travail, sa communauté s'occupera plus d'elle. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour des gens comme ça ? En tant qu'église, est-ce qu'on est prêt pour les accueillir, pour leur trouver un logement, les aider à avoir un travail, peut-être payer certaines choses pour elles, même sur une durée peut-être longue ? On est heureux quand les gens se convertissent, mais comment on peut les accompagner après ? Mais la femme samaritaine, je crois qu'elle ne s'est même pas posé toutes ces questions-là. Elle était sortie pour chercher d'eau et elle était tellement heureuse qu'elle est partie, le texte nous dit, elle est partie, elle a laissé sa cruche carrément. Elle est sortie à l'heure la plus chaude de la journée, puiser de l'eau. C'est une activité fatigante, après il fallait qu'elle ramène en plus depuis le puits jusque là où elle habitait. Et la rencontre avec Jésus change tellement de choses dans sa vie qu'elle oublie carrément la chose première pour laquelle elle est sortie. Au pire, elle aurait pu courir avec son seau à la main, elle aurait renversé un peu, mais au moins elle avait pris son seau. Mais elle a été tellement touchée, tellement transformée par ce que Jésus a fait, qu'elle a même oublié pourquoi elle était sortie au début. Pouvoir boire le seau, peut-être nourrir, je sais pas, peut-être elle avait un âne, il fallait de l'eau pour boire pour l'âne ou autre. Elle a tout oublié. Elle a tout laissé derrière elle. Et elle est partie parce qu'elle a été transformée si profondément, parce qu'elle a vécu avec Jésus, qu'elle n'a plus pensé aux choses terre à terre d'à côté. Elle est allée et elle a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui a dit tout ce que j'ai fait. Si c'était le Christ, si c'était le Sauveur. Et elle a raconté ça avec une simplicité mais déconcertante. Elle va juste dire ce que Jésus a fait, avec simplicité, elle va dire ce qui s'est passé. Et les gens vont aller voir. Et des fois, je me dis, mais c'est pas juste, c'est trop simple. Et ce qui me touche dans ce témoignage, c'est qu'elle n'a pas ressenti le besoin d'inventer quelque chose à ajouter à son témoignage. Elle a juste dit avec simplicité ce que Jésus a fait. Et ça a suffi. Parce que ce que Jésus fait, c'est suffisant pour que d'autres soient touchés par Dieu. Christ nous a sauvés. Dieu nous a adoptés comme des enfants. Dieu nous a arrachés au royaume des ténèbres par le sacrifice de Jésus-Christ pour nous amener dans son admirable lumière. Et est-ce que parfois on n'est pas là à se dire « Mais mon témoignage, il n'a rien d'exceptionnel. Moi, je suis là, je me suis converti à 13 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de ma vie d'avant ?» La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'étais perdu et que Dieu m'a sauvé en Christ. Et que maintenant, je ne suis plus perdu. Que maintenant, je suis fils de Dieu. Que maintenant, Christ est celui qui m'offre l'assurance que je serai auprès de Dieu à ma mort. Ça suffit. L'œuvre que Dieu fait en nous, même si notre témoignage nous semble tout bête, ça suffit. C'est vrai, des fois on se dit, « Ouah, mais lui, il était dans la drogue, dans l'alcool, dans la violence et tout. » Forcément, « Ouah, mais les gens, ils vont y croire que Jésus sauve des vies et que Dieu change quelque chose. » Mais moi, à 13 ans, ça touchera qui ? Ça touchera des gens qui ont des vies normales. Tout le monde, et heureusement, ne tombe pas dans la violence, dans la drogue, dans l'alcool. Ceux qui vivent ces luttes, ces choses-là, ont besoin d'entendre d'autres personnes qui l'ont vécu et qui ont été sauvées par Jésus-Christ. Mais si vous rencontrez votre voisine, je sais pas, de 60 ans peut-être, vous lui parlez et tout, elle, la drogue, l'alcool, peut-être à part quand elle était jeune et toutes les années hippies, ok, mais peut-être qu'elle a jamais rien fait de tout ça, elle va vous dire, bah Jésus, c'est bien pour toi, mais moi, je me sens pas concerné par ton histoire. Les gens avec des vies normales ont besoin de témoignages de gens avec des vies normales qui ont été transformées par Jésus-Christ. Parce que l'œuvre de Dieu, ça consiste pas à sauver des cas désespérés. On est tous des cas désespérés. Parce que sans Jésus, on peut pas se sauver nous-mêmes. Mais il faudrait pas penser que oui, ben Jésus, il sauve que les gens avec vraiment des niveaux de problèmes super élevés, et les gens classiques, il les sauve pas. Jésus, ses premiers disciples, c'était des pécheurs, certains. Pas sûr qu'ils avaient forcément fait des folies dans leur vie. Et pourtant, Jésus les a sauvés. Si vous avez un témoignage normal, louez Dieu pour ce témoignage normal, parce qu'il peut impacter d'autres gens avec des vies normales. Et n'ayez pas honte, comme moi j'ai eu honte à un moment, d'avoir un témoignage simple. Les gens ont besoin aussi de simplicité. Et d'entendre que c'est pas parce que j'étais pauvre, que j'étais dans la rue, que j'étais au chômage, que j'étais malade, que j'étais alcoolique, violent ou autre, que j'ai besoin de Jésus. J'avais besoin de Jésus parce que j'étais pécheur. Et si j'ai pas Jésus en tant que pécheur, c'est fini pour moi. Et ça, c'est une vérité qui est vraie pour les riches, pour les pauvres, pour les bien portants, pour les malades, pour tous. Et c'est ça qui importe dans nos témoignages. C'est que Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés. L'aveugle né, quand on lui a demandé ce qui s'était passé, il a dit « Moi, je sais pas qui c'est qui m'a guéri. Avant, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. C'est tout ce que je sais. C'est simple. Maintenant, je vois. Avant, j'étais aveugle. Ce que Dieu a fait, ça suffit pour témoigner de sa gloire. Il n'y a pas besoin de dire « Waouh, mais si j'avais fait plus de choses mal, mon témoignage, il serait vraiment meilleur. » Quand on fait ça, on s'imagine que c'est notre témoignage qui changera les vies des gens. Alors que la vérité, c'est que ce que Dieu fait au travers de notre témoignage, c'est que par son Saint-Esprit, il parle à des gens qui ont connu la même chose ou qui peut-être ont même pas connu la même chose. Et que ces gens-là se disent « Mais je suis peu dans la même position que ce gars ou que cette femme. » Peut-être que j'ai besoin de Jésus aussi de la même manière. C'est pas parce qu'on va atteindre un certain nombre de péchés que, clac, les gens ils vont se dire « Waouh, c'est pour moi ce message. » Les gens vont se sentir concernés parce qu'ils vont voir en face d'eux quelqu'un qui va dire « Moi tout seul, j'étais foutu. » Et Jésus m'a sauvé. C'est ça qu'ils ont besoin de voir, les personnes en face de nous. Ce que Dieu a fait, ça suffit pour qu'on lui rende gloire et pour qu'on témoigne de lui. Si on a l'impression que ça suffit pas, je crois qu'on devrait se rappeler quelle était notre situation avant et regarder quelle est notre situation maintenant. Et des fois je le fais et je me dis, mais ouais, même si j'ai eu un témoignage très simple, ce que Dieu a fait pour moi, c'est vraiment quelque chose qui dépasse l'entendement. Et j'ai pas besoin d'essayer de rajouter, de le rendre plus beau, plus spectaculaire, plus puissant, parce que ce qui est puissant, c'est que Dieu m'a sauvé. Et ça, ça suffit. Et du coup, cette femme, sans se poser de questions, sans se demander qu'est-ce qui va se passer pour moi, sans prendre sa cruche, sans se dire, oh là là, comment je vais leur expliquer, quels mots bien compliqués je vais pouvoir utiliser pour leur montrer et tout, rien du tout de tout ça. Elle est partie, elle a été tellement touchée et transformée par Jésus-Christ qui lui a dit, moi, je peux te donner de l'eau ou t'auras plus jamais soif. Toi, la femme rejetée, toi, la femme avec tes 5 maris, toi, la femme adultère, toi, la femme que personne ne regarde, la femme dont peut-être même les autres femmes avaient peur parce que, genre, voilà, je vais ranger mon mari, pas qu'elle l'attrape au passage. Cette femme-là, elle est allée voir l'autre parce que ce que Jésus a fait dans sa vie, c'était tellement fort, tellement puissant qu'elle ne pouvait pas le garder pour elle. Elle n'a pas cherché à changer des choses de son témoignage, elle n'a pas cherché à transformer quoi que ce soit. Elle est juste allée les voir et elle a dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, si c'était le Christ. » Et moi, j'ai envie de dire, est-ce que des fois, on a l'audace de dire « Je vais vous parler d'un homme qui savait tout ce que j'ai fait. » Il ne nous l'a pas dit, parce que, à part peut-être cas exceptionnel, on n'a pas vu Jésus de nos propres yeux. Mais Dieu, en sachant tous les péchés qu'on allait faire, a décidé de nous sauver par Jésus-Christ. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être raconté. Et les autres vont croire. Moi, je crois une femme comme ça serait venue, elle aurait dit « Écoute, ça va, on te connaît, on sait qui tu es, on connaît ta vie, on connaît tes pratiques, avant de vouloir nous faire croire que le Messie s'est révélé à toi, la pécheresse, adultère et tout, là. Mets-toi en règle. » Ils n'ont rien dit. Ils sont allés. Sans doute, ils ont vu une transformation si grande dans cette femme en face d'eux qu'ils se sont dit, c'est peut-être vraiment passé quelque chose, en fait. Verset 41 nous dit, « Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui, en Jésus, à cause des paroles de la femme. » Et un autre verset nous dit, « Nous croyons en lui, parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. » Les deux fonctionnent ensemble. Dieu a utilisé les simples paroles de cette femme samaritaine pour que les autres aillent vers lui, et quand ils sont venus vers lui, Jésus leur a dit lui-même les choses, et avec ces deux choses-là, ils ont pu croire. La conversion, c'est une expérience qui est personnelle. C'est entre Dieu et la personne concernée. Mais entre les deux, Dieu peut mettre des personnes qui font un pont pour qu'on puisse accéder à Dieu. Dieu peut utiliser notre témoignage personnel pour parler à des gens, pour les interpeller, pour leur dire quelque chose. C'est pas que notre témoignage a une puissance en particulier. Notre témoignage, c'est juste des mots. C'est des mots d'une personne pécheresse qui a rencontré le Sauveur. Notre témoignage n'est pas puissant en tant que tel. Il n'y a pas de force dans nos mots en tant que tel. Mais quand le Seigneur décide au travers de notre témoignage de toucher des gens par son Saint-Esprit, eh bien là, notre témoignage devient utile pour d'autres, pour rencontrer le Seigneur. Mais c'est Dieu qui décide d'utiliser notre témoignage. Moi, j'ai rien fait de particulier pour que l'amie dont je vous ai parlé au début, elle se convertisse. J'ai essayé d'être le meilleur chrétien possible avec mes péchés et avec l'aide de Dieu. Et j'ai juste témoigné de ce que je vivais avec Dieu, de ce que Dieu faisait pour moi, de ce que la Bible me disait, de ce que je comprenais, de ce que j'encourageais aussi les autres à vivre. Et le Seigneur a utilisé ça en partie pour l'amener à lui. Mais je peux vous assurer qu'il y a des fois où quand je faisais le groupe jeune ou que j'avais des discussions avec certains, que je priais avec eux, j'avais l'impression qu'il se passait zéro dans leur vie, qu'il se passait rien, que la prédication que j'ai mis tellement de temps à préparer était plate, que je parlais avec les jeunes, je leur enseignais des choses et ils disaient oui, super, on a compris et tout. Et le lendemain, ils faisaient tout le contraire. Et pourtant, Dieu utilise ces choses-là pour amener les gens jusqu'à lui. Il y eut beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme. Et ils dirent : Nous croyons en lui non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais aussi parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Je me demande si un jour on pourrait dire de moi : Il y a eu beaucoup de personnes qui ont cru en Jésus grâce au témoignage que Blaise a rendu. Je sais pas, je l'espère et je travaille pour ça aussi. Dieu peut utiliser notre témoignage bien au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Jésus a utilisé une femme samaritaine avec une situation sociale qui était délicate, une situation religieuse qui était délicate, un passé qui était compliqué, un présent qui était compliqué aussi, pour amener de nombreuses personnes au salut. Pourquoi est-ce qu'il ne voudrait pas faire pareil avec nous ? C'est le même Jésus, c'est le même Dieu, c'est la même expérience qu'on a vécue, peut-être pas dans les mêmes circonstances, mais nous aussi on a été sauvés de nos péchés. Son témoignage était sincère et authentique et c'est ça qui compte. Il suffit de raconter avec simplicité et vérité ce que Dieu a fait pour nous. Essayons pas de le rendre plus beau ou quoi que ce soit, soyons simplement des personnes honnêtes avec les personnes qu'on offre de nous. C'est l'honnêteté qu'on a qui fera que les gens croiront dans le message qu'on apporte. On n'a pas besoin d'être très qualifié. Dieu utilise des gens pécheurs, on l'a vu. Et pour conclure, j'aimerais vous laisser pour cette semaine 3 mots pour vous guider. Tout d'abord, la reconnaissance. Reconnaissance envers ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ. Et je crois que parfois, on oublie un peu ce que Dieu a fait pour nous par Jésus. Parfois, on se dit, bah voilà, je suis sauvé, je suis chrétien, c'est bien, je suis content. Mais est-ce qu'on se rappelle encore vraiment de l'état dans lequel on était et duquel Dieu nous a arrachés ? Pour nous sauver. Qu'on puisse prendre vraiment du temps cette semaine pour dire Seigneur, c'est vrai qu'avant j'étais pécheur, j'étais perdu, peut-être j'avais une vie terrible, peut-être que j'avais une vie normale, mais toi tu es venu et tu m'as arraché. Pas arraché spécialement de ma vie difficile ou de ma vie facile, mais tu m'as arraché du royaume des ténèbres, tu m'as arraché des péchés et tu m'as donné la vie. Je vous encourage aussi à vous rendre disponible pour Dieu, pour le témoignage. Dieu peut nous demander de témoigner n'importe quand, à n'importe qui, n'importe où. Qu'on puisse vraiment prier Dieu pour qu'il nous montre quand il nous ouvre une porte, pour qu'on puisse témoigner. Je vous encourage vraiment à être disponible pour le témoignage. Parfois, ça peut se faire à des endroits plus impromptus possibles. Parfois, ça va se faire dans l'église ou autre, mais parfois, ça peut se faire à des endroits où on ne penserait jamais qu'on peut partager notre témoignage. Alors, soyons disponibles pour cela. Et un dernier mot, la persévérance. La persévérance dans le témoignage et la prière pour ceux dont on attend la conversion. Moi, j'ai des membres de ma famille qui ne sont pas convertis. Mon père, dont je vous ai parlé, par exemple. J'ai des cousins, des cousines. J'ai mon neveu et ma nièce, hein, qui sont tout petits, mais qui ne sont pas encore convertis. Et pour qui je prie, pour qu'ils se convertissent. Et je sais que peut-être eux, ben, il va peut-être falloir encore, je sais pas, 15, 20 ans, peut-être, je ne sais pas. Mais persévérons dans la prière. Persévérons pour que les gens rencontrent le Seigneur Jésus-Christ de manière personnelle, que lorsqu'ils iront puiser leur eau, ils puissent rencontrer Jésus, qui leur dira « Moi, je suis le Messie, celui qui peut te donner une eau qui fera que tu n'auras plus jamais soif. » Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans votre vie comme personnes qui ne sont pas converties, dont vous attendez qu'elles se tournent vers le Seigneur, peut-être vos enfants, vos parents, vos amis. Persévérez. Persévérez. Je ne vous promets pas la conversion des gens, parce que moi je ne suis pas Dieu pour dire qui croit et qui ne croit pas, mais persévérez. Nous avons un Dieu qui entend nos prières et qui veut répondre à nos prières, qui exauce les prières que nous faisons dans sa volonté. Et je vous encourage vraiment à continuer jusqu'à ce que, voilà, j'ai envie de dire jusqu'à la fin, priez pour ceux dont vous attendez la conversion. Et le dernier petit mot est pour ceux dans cette assemblée dont je ne vous connais pas, donc je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés, j'imagine que oui. Mais pour ceux qui ne sont pas chrétiens aujourd'hui, ceux qui ont l'habitude, parce que peut-être leurs parents sont chrétiens, ceux qui ont l'habitude d'entendre des histoires de la Bible, de chanter les beaux chants de louange qu'on a chantés, ceux qui ont l'habitude d'être ici, je vous encourage à vous arrêter un petit peu cette semaine et à vous dire, est-ce que Jésus, ça pourrait vraiment être le Sauveur ? Est-ce que ce Jésus que dont j'entends parler quand on prie, quand on va à l'église, quand on lit la Bible, est-ce que ça peut vraiment être celui qui peut me sauver de mes péchés, de ma situation, de ma tristesse, de ma colère. Est-ce que Jésus, c'est peut-être vraiment celui dont mes parents m'ont parlé? Est-ce que Jésus, c'est peut-être vraiment celui qui peut me sauver, qui peut me délivrer et qui peut faire que j'oublie les choses de la vie quotidienne pour aller partager l'évangile? Est-ce que Jésus est vraiment le sauveur? Je vous invite à vous poser cette question. Et si vous êtes sincère envers Dieu en vous posant cette question, Dieu sera sincère pour vous répondre. Je vais juste prier courtement pour clôturer cette prédication. Père éternel, nous te remercions parce que tu nous as sauvés. Tu nous as retirés de ce royaume de ténèbres dans lequel nous étions. Tu nous as arrachés à cela et tu nous as fait passer à ton admirable lumière par le sacrifice de Jésus. Merci parce que tu nous as appelés à toi, tu nous as montré qui on était, tu nous as montré ce dont on avait besoin. Tu nous as dirigés vers Jésus. Nous avons pu reconnaître que nous avions besoin de lui. Et nous avons pu lui demander de venir dans notre vie et de nous transformer. Et aujourd'hui, il vit en nous par le Saint-Esprit et nous te remercions. Aide-nous cette semaine à nous rappeler du témoignage que nous pouvons rendre. Aide-nous à nous rappeler de ce que tu as fait en nous. À nous réjouir, à te glorifier parce que tu as sauvé des pécheurs. Merci pour tout ce que tu as fait. Et je te donne encore un dernier mot, Seigneur, pour ceux dans nos familles, dans nos amis autour de nous qui ne te connaissent pas. Que tu nous aides à être persévérants dans la prière, que tu leur parles, que tu te révèles à eux par le Saint-Esprit et que nous puissions encore vivre beaucoup de conversions, de baptêmes et de réjouissances parce que tu en auras fait passer d'autres dans le royaume de ton admirable lumière. Amen. Merci à tous.